Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera entièrement consacrée à nos prédictions pour 2019. D'ailleurs, moi j'ai une première prédiction. Boule magique. Je suis pas le seul à avoir cette prédiction, mais dis-moi quelle est la star de l'année 2019. Izuku Midoriya. C'est ce que la boule me répond. Je vois My Hero Academia encore plus gros cette année que ça ne l'a été pour l'an dernier. La licence au global.
Et
My
Hero est plus gros.
Bah parce que je pense qu'il va y avoir encore plus de lecteurs.
Ah d'accord. Ah
ouais. Encore plus de encore gens plus. Qui vont être fans de la série. Je pense que la série va être diffusée aussi sur plus de chaînes de télé grand public. Et que par conséquent, effet de levier classique quoi.
Tu penses qu'il va s'en vendre plus que Dragon Ball Super?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va vendre plus que Dragon Ball Super par tome. Mais comme il y a beaucoup plus de tomes de My Hero Academia ouais. que de Dragon Ball Super.
Oh ouais.
Bah oui.
Ah oui, en
nombre de tomes.
Au total, je pensais sur l'année.
Donc au total, My Hero Academia est devant Dragon Ball Super en licence en nombre de mangas. Mais effectivement, si c'est par tome, Dragon Ball Super est numéro 1. Mais My Hero Academia est sur le podium. Ouais. Déjà l'an dernier, donc ça a bien gonflé. Puis là, sur ce début d'année, on a le long métrage animé qui va arriver aussi. Ça, malgré tout, ça peut aussi faire effet de levier. Il y a les romans, il y a la précédente série de l'auteur qui arrive. Ça fait encore un petit coup de pub. Ça permet, enfin, plein de petites choses comme ça qui vont permettre à Kihun de relancer, de faire reparler de My Hero Academia.
Moi, je pense après que juste d'un point de vue scénaristique, on a passé la dizaine de tomes et du coup là normalement on devrait arriver à un récit qui devient de plus en plus adulte.
Ah bah là on arrive sur une fin d'arc qui tabasse un peu ouais.
Tout le monde m'a dit que le tome 16 il était ouf, je l'ai pas lu encore.
Ouais.
Moi non plus.
Je l'ai récupéré mais je l'ai pas lu. J'attends de voir parce que jusque là pour le moment le seul truc qui me déçoit dans My Hero c'est le côté dramatique. Je trouve qu'ils sont jamais allés jusqu'au bout des trucs dramatiques.
Pour moi, il y a du drame. En plus, Kihun, a priori, devrait nous réserver quelques surprises autour de la licence. Donc là, la fin d'arc, elle tabasse bien. Donc c'est ma première prédiction, en tout cas. My Hero Academia, encore plus haut en 2019 que ça ne l'a été en 2018.
Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera donc entièrement consacrée à nos prédictions pour 2019, aux sorties manga pour 2019. Qui sera la star du manga en 2019? Pour en parler, Cagnard, comment tu la sens toi cette année?
Je la sens plutôt timide. Je la sens, pour le moment, je la sens plutôt timide, un peu comme une boom de troisième, tu vois. Le début d'une boom de troisième, c'est-à-dire les mecs sont d'un côté, les filles sont de l'autre côté. C'est pas très drôle au début, mais j'ai bon espoir qu'au bout d'un moment, tout ça se mélange.
Ouais, il faut vraiment le bon morceau, en fait, pour que ça se mélange.
Voilà, il faut le bon morceau, un petit Black Street, No Diggity, ouais. Tu vois.
On a deux époques, hein, mais...
Donc une boom de troisième des années 90.
Des années 90, bien évidemment, mais pour le moment...
Moi, j'étais plus années 2000, hein.
C'est un peu timide, pour le moment, c'est un peu timide. Ah non, moi je mets un No Diggity.
Qui sera la star du manga en 2019 pour en parler? Robin, comment tu vois cette année?
Avec curiosité, comme toutes les nouvelles années, j'ai envie de dire.
Ok.
Voilà.
Moi je la vois plutôt bonne cette année, pas en vente, mais en surprise, en locomotive et en grosse vente.
D'accord, genre plus les titres vont être intéressants, ou va y avoir des grosses surprises.
En fait, il va y avoir des surprises, parce qu'il y a des titres qu'on n'attend pas,
ouais.
Et puis les locomotives vont tenir leur niveau.
Ouais,
tu vois, Promise Neverland va tenir son niveau.
Mais tu vas pas avoir de nouvelles...
Il y aura pas de nouveau Promise Neverland cette année.
Ouais.
Okay. Un nouveau Black Torch, j'imagine même pas, tu vois, juste pour se mettre à peu près au niveau. Ouais. Si c'est possible. Ah,
mais Black Torch c'était une surprise.
Ouais,
en
Black
même
Torch
temps,
c'était un peu inattendu. Finalement.
Non, moi je l'attendais. Hein. Moi ouais, j'avais dit que ça allait marcher. Mais ça c'était ma prédiction de l'année dernière.
Oui.
Si vous voulez, vous retrouvez les 36-15 max.
Les prédictions. Mais c'est vrai que là, en tout cas, tu vois, sur le mois de janvier, je vois pas d'équivalent Black Torch.
Non, c'est
là,
sûr.
Sur le moment, j'en vois
mais
pas.
Mais c'est vrai que l'an dernier, moi je savais déjà les 5-6 mangas qui allaient finir dans mon top 10. À la fin de l'année, CF l'émission précédente, hein, du coup,
ouais.
2018, les mangas qu'il ne fallait pas rater. Là, j'en ai peut-être deux qui devraient être dans mon top 10. Allez, trois grands max.
Moi,
mais c'est pas sûr, tu vois.
Là, j'en ai zéro. Là, sur les trucs que j'ai lus, j'en ai zéro qui devrait arriver dans mon top 10.
J'en ai un, mais je peux même pas en parler, donc ça ne sert à rien que je le dise.
Bah, très bien.
Donc voilà, non, mais c'est pour ça que c'est difficile, quoi, cette année.
Elle va être bizarre cette année parce que là.
Il y a eu beaucoup en 2018, hein.
Oui, en même temps, il y a eu un peu tous les All-Stars qui se sont lancés en 2018. Du coup, là, 2019, on est peut-être sur une année un petit peu plus de transition, un peu. Alors, en plus, là, je parle vraiment que en termes de tome 1. On sait très bien qu'un manga ne se jauge pas que au tome 1.
Évidemment.
Et il risque d'y avoir des surprises, on va dire, sur... Tu vois, enfin, je me souviens de Fire Punch, qui au tome 1 m'avait absolument pas convaincu. Enfin, m'avait donné un goût de... ouais, très bien. Et dès le tome 2, ça a commencé vraiment à me hyper. Donc, je reste prudent.
Reste prudent. Hashtag 5DC si vous voulez parler avec nous avec prudence sur les réseaux sociaux. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Comment va se passer cette émission? Eh bien, on va égrener simplement nos prédictions, nos pré-coups de cœur. On va essayer de voir quelques thématiques qui peuvent se dégager sur cette année, puis éclairer un petit peu sur 2019, le premier semestre au moins. Au moins le premier trimestre, allez. On va essayer de s'arrêter au premier trimestre. On va d'ailleurs commencer par les sorties du mois de janvier-février en débordant un petit peu sur Mars. Va y avoir du sang, des grands méchants loups, puis des vampires au programme. On parlera du nouveau manga de l'auteur de Naruto qui va sortir cette année.
Oui.
Ou encore d'Isekai de Fantasy du Festival d'Angoulême qui arrive là, sur la fin du mois de janvier. Puis du retour de célèbres séries. De la ressortie de Slam Dunk, évidemment. Je parle plus de ressortie que de réédition. Tu vois la petite différence?
Ouais, je vois. Ouais.
Et puis des dernières grosses licences japonaises qui ne sont pas encore dispo par chez nous, mais qui pourraient peut-être l'être. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, on les égrènerait également. Et puis un tout petit peu d'animation en fin d'émission. Un tout petit peu d'animation. Voilà. C'est parti. On commence cette émission en égrenant les sorties du mois de janvier-février. On va un petit peu déborder sur le mois de mars. Je voulais qu'on parle d'un manga qui s'appelle Soft Metal Vampire qui va sortir chez Saka Casterman et qui symbolise le retour d'Hiroki Endo. Hiroki Endo, c'était l'auteur d'un manga de science-fiction qui s'appelle Eden. Vous vous souvenez de Eden?
Ah bah ouais, très fort.
Très fort. Il y a eu des fans à l'époque de Eden.
Il y a eu des fans.
Mais sauf que il y a plus de nouveaux fans puisqu'on ne peut plus trop retrouver ce manga.
Eh ben je pourrais être fan d'Eden parce que à l'époque j'avais acheté les deux premiers tomes de Eden et j'étais complètement fan de cette série. Sauf qu'à l'heure actuelle chaque tome coûte 80 euros.
Voilà, ça fait partie de ces séries. Ça fait partie de ces séries qui sont très difficiles à trouver.
Et il avait sorti une autre série chez Panini d'ailleurs, un truc sur la boxe, All Round, quelque chose comme ça.
Et là ça sort, donc chez Saka Casterman, ça s'appelle Soft Metal Vampire. Le pitch c'est quoi? C'est un monde qui est contrôlé par les vampires, le genre humain est asservi, mais la naissance d'une humaine qui est capable de manipuler l'argent va représenter un vrai danger. Parce que l'argent, les vampires... Ouais. Vous voyez le lien?
Bah en fait non, moi je l'ai pas vu.
Bah si, pour tous les vampires il faut des balles en argent,
les
par exemple.
Ouais, pour moi c'était les loups-garous.
Ah, pour moi tu vois
l'argent.
C'était bref du coup.
Mais, mais c'est pas grave, hein, c'est en le lisant j'ai pas compris le truc genre bah c'est les loups-garous non l'argent, c'est les puits en bois pour les vampires.
Ouais. Ah ouais, bah pour moi l'argent aussi ça marchait sur
si,
les vampires.
Non mais si, oui, je crois que l'argent dans les trucs genre dans True Blood et tout, il y a de l'argent, non? Ouais, l'argent, ça leur fait mal.
Bah
aussi,
pour moi, l'argent, ça faisait mal aux vampires.
Mais
du coup,
ouais, non, mais oui.
Vous me mettez le doute maintenant. Bah, bref.
Écoute.
Soft Metal Vampire, c'est une fresque d'anticipation qui va explorer la violence qui est propre au genre humain. Qu'est-ce que tu as pu le lire, Kanya?
Ouais, je l'ai
en
lu.
En deux mots.
Et en deux mots, j'ai grave kiffé. Alors que c'est marrant, hein, j'ai entendu parler de ce titre parce qu'il avait été annoncé. Et à partir du moment où j'ai vu le mot vampire, je fais ne m'intéresse pas. Tout simplement, tu vois. Et quand tu m'as dit que c'était le mec de Eden, je me suis dit, de toute façon, ce mec-là, j'ai envie de lire n'importe quoi qu'il puisse publier. Donc j'y suis allé. Et en vrai, le titre est plutôt très cool. C'est vraiment une grosse course en avant. Là où ça aurait dû ressembler à une course en avant sur un ou deux chapitres, là t'as une course en avant de un tome. Donc c'est hyper haletant, c'est scientifique. Ils font vraiment des explications entre les alliages, les différents éléments du tableau périodique et tout.
C'est pour ça que quand je parle de fresque d'anticipation, pour moi on est totalement dans de la SF là.
Oui, là c'est de la SF vraiment. Alors je suis pressé de lire la suite là, vraiment.
Donc Soft Metal Vampire, c'est signé Hiroki Endo. On en reparlera une fois qu'un peu plus de gens l'auront lu et qu'on aura eu aussi qu'on aura vu les premiers retours.
On avance un peu. Puis on pourra faire un petit appel à Panini, s'il vous plaît. Rééditer Eden, les gars, vraiment.
On peut aussi faire ça, effectivement.
J'aimerais bien les lire, vraiment.
On change de genre totalement. premier manga de création français de cette année. Un projet ambitieux, un projet transmédia, un projet qui a déjà fait parler de lui. Il s'appelle Marble Gen de Sylvain Dos Santos et Grelin. Sylvain Dos Santos, on l'avait déjà vu travailler sur le manga Booksters.
Ouais, chez Cana aussi.
Avec Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre. Là, il est de retour avec un autre dessinateur pour un manga ambitieux parce que le dessin animé existe déjà sur TF1.
Ouais.
Est diffusé et ce manga s'adresse à un public un peu plus âgé que le dessin animé.
Ouais, il y a un truc vraiment transmédia. Le dessin animé est très kids, très enfant, et a priori le manga est un peu plus
ado, quoi.
Un peu plus ado. Ouais,
t'as aimé toi ou pas du coup de ton...
Non, j'ai pas aimé. Et après, j'aime bien les dessins de Grelin. Ça, je trouve que ça marche bien. Le gars sait y faire. Donc, au niveau du dessin, j'ai bien aimé. Ça va. Après, au niveau de l'histoire, honnêtement, ça m'intéresse pas. Tu remplaces. Là, c'est des billes. Tu
vois, c'est ça. C'est des billes.
Tu remplaces les billes par des toupies, bah, ça donne Beyblade. Tu remplaces les toupies par des cartes, bah, ça donne Yu-Gi-Oh. Et encore, je mets Yu-Gi-Oh un petit peu plus au-dessus. Mais en vrai, ça m'intéresse pas.
En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, dans ce début de manga, c'est que oui, c'est au lieu d'avoir des toupies, on a des billes. Soit, mais sauf qu'on a un traitement un peu plus occidental de la chose.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et ça nous sort du Beyblade de Hiro Morita, ça nous sort du Yu-Gi-Oh, ça voilà. Ça,
mais
ça
c'est
change.
C'est pas un mauvais manga. Hein. C'est typiquement le manga que je vais offrir à mon neveu à Noël prochain. Tu vois, c'est vraiment c'est comme comment ça s'appelle le truc de Kazé là.
Avec le chat,
Yo-Kai Watch.
Yo-Kai Watch. Ah,
bah, c'est pas pour moi, j'ai lu le tome 1, alors c'est pas pour moi, mais par contre je l'ai offert à mon neveu et tout, c'est parfait pour ce qu'il doit être.
Mais du coup, c'est pour redonner aux enfants le goût des billes, de rejouer aux billes comme nos grands-parents. Quoi.
On J'imagine. Peut tellement faire. Comment ça, comme nos grands-parents?
Bah,
mais moi je jouais aux billes.
Bah, même moi je jouais plus aux billes. J'ai un peu joué aux billes, mais c'est.
À mon époque, il y avait eu un retour des billes.
Enfin, les sacs de billes, c'est les. Enfin, tu sais, c'est la Seconde Guerre mondiale.
Absolument pas.
Tu sais, c'était les calots, les.
Oui, les calots, les boulards, les trucs comme
ouais,
ça.
Moi, je détestais les POG, mais
j'avais joué un peu au POG.
Mais moi, je me souviens qu'à l'école primaire, il y avait eu un retour des billes. Et mon père se foutait de ma gueule en me disant, mais les billes, c'est un truc d'après-guerre, tu vois. Qu'est-ce que tu joues avec
moi,
ça
moi, j'avais deux passions, les billes. Non, j'avais trois passions. Les billes, les robots et les crados.
Ah oui, les crados, oui.
Voilà,
ah,
c'était mes trois passions. Mais les billes étaient dedans, quoi.
Au moins, s'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que là, on a une licence française. Avec un dessin animé de TF1, je l'ai pas regardé le dessin animé, honnêtement, il a l'air horrible. Mais au moins, il y a un dessin animé avec un manga papier qui sort. Écoute, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour l'édition française.
On essaye de faire comme les grands, quoi.
Ouais, mais enfin, on l'a déjà fait, mais pas forcément avec du manga, puisque si tu regardes ce qui se passait du côté d'Ankama avec Waku, t'avais le dessin animé, t'avais le jeu vidéo, c'était totalement transmédia de A à Z. Marble Gen, donc, c'est aux éditions Kana, on retourne sur la science-fiction. Atreil, c'est le retour de l'auteur de Code Geass. Code Geass, il y a un milliard de fans ouais. à travers le monde.
Et j'avoue, j'en fais partie.
Et il est de retour là avec Atreil, un shonen de science-fiction étonnant, là, dessiné d'un garçon qui est la clé du monde et la clé de la fin du monde. Un tome 1, pour avoir lu le tome 1, je sais pas où je vais, mais j'ai envie d'y aller.
Ouais, bah, tout pareil. Je sais pas vraiment où ça va, mais j'ai envie d'y aller parce que Code Geass, j'étais assez fan et ça sent bon.
Mais Code Geass avec de l'humour. Fou.
Ouais, parce qu'en plus le héros en a rien à foutre.
Oui, mais si tu veux, il en avait rien à foutre aussi. Enfin, il avait un côté un peu nonchalant comme ça dans Code Geass. Là, il a ce côté nonchalant, mais en plus, il y a des vannes qu'il n'y avait pas autant dans Code Geass. Bon, en tout cas, ou un humour qui me touche plus dans Atreil qu'il n'y avait pas.
Mais il y a un petit côté Truman Show que j'aime bien. Il y a vraiment un petit côté Truman Show tout le monde joue la comédie pour toi. Que je trouve plutôt plaisant, là, en tout cas.
Oui, parce que le héros est dans un monde où tout le monde joue un rôle. Comme dans Truman Show, pour lui faire croire que sa vie est normale. Et sauf qu'il a le destin du monde un peu sur les épaules, donc sa vie n'est absolument pas normale. Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que le fait qu'ils aient déplacé le Japon de la planète.
Clairement, genre, bas les couilles, tu vois. C'est un plot, c'est comme ça.
Il n'y avait rien sur l'Antarctique, on a mis le Japon là-bas.
Mais à lire, vraiment à lire, parce que c'est curieux.
Exact. Atreil, c'est aux éditions Doki Doki. Le suivant est beaucoup plus violent. C'est même le seinen ultra violent de ce début d'année. Enfin, l'un des deux seinen ultra violent de ce début d'année. C'est Jagan. Vous avez vu les visuels de Jagan?
Ouais.
avec avec ce bras à moitié mutant qui que le héros possède. Voilà, ça c'est clairement pour ceux qui aiment quand ça saigne.
Moi j'ai lu qu'un chapitre, du coup le chapitre qu'ils ont mis à disposition là très récemment, c'est Fire Punch pour moi. C'est leur héritier de Fire Punch.
Moi je le vois un peu moins. C'est pas forcément pour moi à mettre dans exactement la même case que Fire Punch. Je sais pas, Fire Punch il était plus. Il s'amusait plus à détruire des tabous que Jagan, c'est vraiment. C'est de la bonne violence comme on aime dans les mangas violents.
J'ai lu qu'un chapitre.
De la merveilleuse violence, comme dirait Jodorowsky.
C'est ça,
la merveilleuse violence. Mais j'ai lu qu'un chapitre, donc je suis vraiment. Moi, ça me plaît, en tout cas. Ça me plaît.
J'accélère un peu parce qu'on a beaucoup de titres. Jagan, donc, c'est chez Kazemanga. L'autre seinen ultra violente ce début d'année, c'est Haku. Haku, le chasseur. Grashross en VO, il avait déjà fait parler de lui un petit peu sur internet dans son nom original, je vais y arriver. Haku, c'est un seinen qui commence comme un shonen à l'ère paléolithique. C'est-à-dire qu'au début, on voit la naissance d'un héros qui pourrait être le guerrier le plus puissant de l'âge de Cro-Magnon. Ouais. Sauf qu'en fait, ça part en seinen à la fin du. Enfin. C'est déjà violent au début, et puis dans le premier tome ça tourne en seinen, et dans le second tome on est sûr et certain que c'est du seinen par la violence.
Et du coup il fait quoi? Il chasse des mammouths?
Il chasse des mammouths, évidemment.
Un peu de close près, c'est ça.
C'est cool.
Il chasse, c'est beau.
C'est très, putain très beau.
Ouais, mais ça c'est vraiment le genre de manga où il faut justement que le dessin il soit au niveau pour raconter ça, quoi. Pour
montrer les mammouths, ils sont, incroyablement classe, évidemment. Non, mais en fait le manga va commencer avec le père du héros, et ensuite on enchaîne directement sur le héros, mais il y a des combats magnifiques entre l'homme versus le mammouth.
Ouais, mais vraiment
ça stylé.
Man versus mammouth.
Là sur le tome 1, moi je peux juste te dire c'est beau, et quelque part c'est original de faire un truc à l'époque de la préhistoire.
Ouais, carrément.
Moi, on en a pas souvent, là, c'est vrai. J'en ai pas lu. Non, en fait j'en ai pas lu. Je connais pas de manga préhistorique, tu vois.
Haku, le chasseur, c'est aux éditions Pika. Le suivant, c'est chez Kiun, ça s'appelle Beastars. C'est pour moi le manga qui va rafler des prix cette année.
Ouais.
Il en a raflé en tout cas l'année dernière au Japon. Il en a gagné 3, 4, 5, 6.
Il en a gagné
beaucoup.
Ouais, je sais pas, moi, il m'a pas trop. Ça m'a rappelé Black Sad. Forcément, quand tu vois des personnages avec des têtes d'animaux, ça te rappelle Black Sad. Donc pour moi, c'était Black Sad, mais un moins bien dessiné. Donc,
moi, je trouve ça superbe en fait.
En fait, il y a des moments où c'est bien, où il y a des espèces de moments de tension et des trucs avec les jeux sur les ombres qui sont chouettes, mais il y a des moments, t'as l'impression que le gars il a pas fini de dessiner, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est très irrégulier.
Non, mais tu vois, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que ça lui donne, un cachet.
Je suis plutôt de l'avis de Robin. C'est beau sans être beau, tu vois, c'est beau, genre il y a une bonne intention. Après, le gars évolue pas mal entre, tu sais, la page. Une du tome 1 et la dernière page du tome 2, tu sens que le gars est pas fini.
On peut aussi suivre les visuels que l'auteur poste très souvent. Elle poste très souvent des visuels sur
Twitter. Je pense que le mec a du talent, hein, mais il y a plein de trucs problématiques dans ce manga.
La fille.
Non, il y a. Alors, moi, le truc qui m'a le plus gêné, c'est que.
C'est une fille. Hein.
Ah oui, pardon, j'ai cru la fille, le personnage.
Ah non, l'auteur.
Il y a le fait que ça parle de théâtre. Et encore une fois, pour moi, le théâtre, comme Kazané, tu vois, ça me parle pas. Quand on dit un tel joue très bien, mais que toi, t'as aucune perception par rapport à ça, quoi. Elle cite son texte et c'est comme ça.
Vous voulez revenir deux secondes sur le pitch du manga? Parce qu'en fait, on en parle.
Ah oui. J'ai grave du mal à le pitcher, ce manga. Carrément.
T'es dans un monde où les personnages sont des. Enfin, c'est ce qu'on appelle du animalier. Donc, c'est des personnages anthropomorphes, mais qui ont des têtes d'animaux et qui ont des caractères et des comportements liés à l'animal qu'ils sont, en fait.
C'est pour ça que ça me faisait penser à Black Sad, parce que c'est herbivore, ouais. Carnivore. Il y a des règles très précises.
Et du coup, ouais, c'est une espèce de métaphore de la société avec les herbivores vivent entre eux, les carnivores vivent entre eux.
Tout le monde vit ensemble.
Ils vivent dans des communautés distinctes, ils ont leur code entre eux, ils ont leurs a priori par rapport aux autres, genre les carnivores ont des a priori sur les herbivores et inversement. Ouais.
Et le loup, c'est le grand méchant loup.
Et on suit le grand méchant loup. Et là où dans Black Sad c'était un détective hard-boiled, un chat noir indépendant, et là bah, comme on est dans un manga, bah, c'est un garçon timide. Ouais. Comme dans tous les mangas, le
qui
héros
évolue
est un garçon timide.
Dans un lycée où il fait partie d'une compagnie de théâtre. Et bah voilà, en gros, il... Mais si, je sais pas.
C'est un manga qui va s'amuser aussi à casser les a priori à travers ces personnages anthropomorphes.
Mais c'est un peu du déjà vu pour moi. Enfin après, peut-être dans le manga ça l'est moins, mais dans la BD franco-belge, l'animalier c'est tellement répandu que c'est vrai que c'était un peu du déjà vu pour moi. Quoi.
Et j'ai eu ce problème vraiment. Je trouve que le monde n'est absolument pas bien posé. L'univers, il n'est pas bien posé. Et j'aimerais bien connaître la genèse de ce manga, parce que j'ai l'impression que c'est un titre qui a été publié sur Internet à la base, sans éditeur, sans rien.
Non,
et à la fin du... Mais, non, mais c'est l'impression que ça me donne. Hein. Et en fait, il commence à t'expliquer les bases de l'univers à la fin du tome 1, en disant « Ah, au fait, on est dans un lycée où il y a des carnivores, il y a des herbivores, c'est comme ça que ça se passe, certains ne peuvent pas faire ça, d'autres... » Et ça m'a fait une sensation hyper bizarre de « j'ai l'impression que le truc a été pris par un éditeur, enfin il a été repris par un éditeur. »
Oui, et en plus...
Au bout d'un moment, quoi.
En plus, ça racontait via un genre de post-face, c'est ça? C'est même pas dans le narration?
Non, c'est dans la narration, où vraiment, les deux derniers chapitres, ils commencent très clairement à expliquer comment... se structure le lycée. Ça m'a donné vraiment une impression d'un truc amateur qui a été repris, tu vois, enfin qui a été structuré par un éditeur après. Je me trompe sûrement, hein. C'est l'impression que ça me donne.
L'auteur va venir en France, donc tu pourras lire des interviews de l'auteur.
Ah ben, j'en attends.
Allègrement, puisque elle sera là au mois de janvier pour l'occasion du Festival Angoulême.
Après, ça m'a fait plaisir sur la narration. Il y a beaucoup de narration à la première personne. On alterne beaucoup entre les persos, et ça, c'est un truc qui est rare dans le manga et que j'aime bien, où c'est vraiment du jeu. Et t'alternes entre les persos, donc entre un carnivore, un herbivore. Ça, j'ai bien aimé.
Pour moi, c'est clairement le manga qui devrait rafler des prix et qui devrait avoir des critiques dithyrambiques dans la presse.
Il est signé pour ça. Honnêtement, il a déjà les prix dans sa poche, tu vois.
Beastars, ça sort chez Kihoon. Le suivant, c'est le thriller de ce début d'année, My Home Hero, qui a déjà commencé à faire un petit peu parler lui aussi sur Internet, puisqu'il il sort là en ce début d'année. Un thriller sans pouvoir. Avec un héros normal, j'ai envie de le définir comme ça.
Ouais, moi, c'est un peu, je trouve qu'il réussit là où Noise avait raté, par exemple, tu vois, c'est qu'on est vraiment sur un mec lambda, un anti-héros, qui est donc le salaryman de 50 ans, enfin je sais plus quel âge il a, mais qui a une gamine de 18 ans, et qui va décider pour la défendre, pour la protéger, de faire beaucoup plus que ce qu'un salaryman de 50 ans ferait. Et je trouve qu'il y a... Déjà, les choses sont posées vachement plus rapidement que dans Noise. Et c'est... Enfin, disons que l'objectif de l'auteur est amené beaucoup plus rapidement et beaucoup plus clairement, quoi. Et puis, il y a vachement plus de petits côtés humoristiques aussi. Enfin, il y a un côté... pas humoristique mais un peu tragicomique, quoi. Tu rigoles de situations, tu souris de situations qui
sur lesquelles tu ne devrais pas
sourire, tu vois, mais il y a ce truc qui est un peu propre à ce que peuvent faire des frères Cohen, les films des frères Cohen par exemple.
Ouais, c'est vrai, il y a
ce côté un mec complètement lambda à qui il arrive des situations abracadabrantes et qui doit s'en sortir, quoi.
Moi j'ai hâte de lire la suite de My Home Hero, mais de ce que j'ai vu, de ce qui allait sortir, pour moi c'est vraiment le thriller du premier semestre.
Ah ouais, clairement.
Fan de thriller, sauter dessus, quoi.
Puis moi en fait dès qu'il y a un manga un peu polar thriller, moi je suis pour. Et je l'ai lu, il m'a pas, tu sais, ambiancé de ouf, mais j'étais content. Il y a un côté, comme dit Robin, il y a un côté très réaliste. Enfin, t'y crois aux persos. Tu sens que c'est pas des persos de shonen. C'est des persos qui peuvent exister dans la réalité. Ça manquait un peu de... Sur la fin du tome, pour moi, ça manquait un peu de... Pas de folie, mais ça manquait d'un truc un peu... Mais franchement, je vais tous les lire.
Ouais, il y a quelques trucs qui m'ont gêné, mais après, je vais pas détailler pour pas trop spoiler.
Il y a pas un twist final, effectivement.
D'ailleurs, il y a un auteur français de polar qui a fait genre un verbatim pour ce bouquin.
Maxime Chatham.
C'est Maxime Chatham qui a fait une... qui est a priori fan de manga.
Non, qui justement n'est pas un gros lecteur de manga et qui disait que My Home Hero l'avait vraiment surpris.
On m'a dit qu'il était qu'il était plutôt fan de manga.
Alors, je ne sais pas qui est ce on, mais je pense que tu peux l'insulter.
Je ne peux pas le dire, mais a priori, qu'il aime ou qu'il aime pas, en tout cas, c'est marrant qu'un mec de la littérature vienne donner son avis sur du manga, je trouve ça cool.
Bah, ils sont chez le même groupe d'édition.
Oui, bien sûr, mais qu'il le fasse, je trouve ça cool. C'est encore une fois, ça croise un peu les genres, et moi j'aime bien.
Janvier, février, on a fait le tour des quelques mangas qui vont se faire remarquer. On en a peut-être oublié, forcément, on n'est pas non plus des voyants parfaits. Tous les voyants ne voient pas tout.
Ouais, puis on a lu quoi.
Oui.
À un moment, ça manque de temps. Ouais, tout ça.
On lit ce qu'on peut.
On est voyants en même temps, donc tu vois. Non,
toi t'es voyant, nous on sait pas.
C'est vrai,
moi j'ai une
boule de
voyants.
La boule de cristal m'emmène aussi sur un autre manga. Je pense que ça va être difficile pour que ça soit un carton, mais il pourrait trouver son public. Ça s'appelle Astra Lost in Space, un manga qui a été dans le top 5 du Kono Manga Gasugoi au Japon. Donc ça, c'est un prix, c'est une sorte de super grand prix de l'année qui est décerné par genre 400 ou 500 personnes, tu vois.
D'accord.
Acteurs du milieu de l'édition au Japon.
Ouais.
Ce manga Astra Lost in Space est arrivé dans le top 5 et il sort au mois de mars en France. C'est signé par l'auteur de Skate Dance. C'est écrit de A à Z en 5 tomes. Ça n'a pas été arrêté au bout de 5 tomes parce que
c'était une série courte.
C'est une série courte et ça n'a pas été arrêté parce que ça marchait pas. Dès le début, l'auteur l'a prévu en 5 tomes. Donc l'auteur de Skate Dance, Astra Lost in Space, c'est un shonen de science-fiction. Vous vous souvenez, on cherchait dans une émission l'année dernière, on disait qu'il y avait très peu de shonen de science-fiction. Voilà. Ça y est, un vrai shonen de SF. On a une équipe de lycéens qui est perdue dans l'espace et qui vont de planète en planète pour réussir à avoir de quoi se substanter et de quoi avoir du carburant pour leur vaisseau pour rentrer sur Terre. Ça semble assez lambda, sauf que il y a un traître parmi eux.
Il y a un Cylon.
C'est ça, il y a un Cylon.
Un Cylon, c'est vrai.
Il y a un Cylon parmi eux et ils sont pas censés être perdus. À la base, ils allaient juste en colo sur une autre planète.
Ah ouais.
Oui, c'est une colo.
C'est une colo dans l'espace.
C'était pas mal.
J'ai adoré.
C'est beau, encore une fois. C'est un.
Et c'est drôle.
Et là, j'avoue que j'ai été hyper étonné. C'est drôle, ça m'a fait. Peut-être pas marrer, tu vois, mais j'ai souri plusieurs fois. Et malheureusement, j'en arrive un peu au truc du SF et shonen, quoi. Il manque un côté un peu dramatique, tu vois. Je trouve qu'il leur arrive pas assez de galère, tu vois. C'est genre, c'est bien, mais il y a vraiment un côté shonen, genre tout va bien, c'est parfait. Et t'es là, non, c'est pas parfait. En
vous
vrai,
êtes perdu dans l'espace.
Vous êtes perdu, c'est la galère, tu vois.
Ouais, mais ils ont des idées pour revenir, alors ça
ils
va.
Ils ont des idées, mais j'attends de voir. Mais c'est voilà, pour moi, la SF, c'est un sujet un peu dramatique et là, pour le moment, ça évite le côté dramatique. Pour le moment, ça évite gentiment. Très
mais
beau, quand
l'apparition
même.
Du traître, ça permet peut-être de relancer
oui,
un petit...
Oui, ça va peut-être amener des...
Ouais, mais sans blague, il y a un traître, tu vois.
Ah bon, vous avez été transporté là par hasard, alors. Non, bien sûr que tu l'attends, mais voilà. C'est juste que comme ça, en 5 tomes, tu t'attends à ce que, est-ce qu'il y a un petit côté huis clos en même temps qui puisse être
Par contre, le fait que tu me dises que ça soit en 5 tomes, ça m'interroge un peu plus. Si je me dis, ça veut dire qu'il va aller très très vite là, par la suite.
Astra Lost in Space, ça sort chez Nobinobi.
Et c'est étonnant, ça, pour le coup.
Et effectivement, ce manga, j'aurais pu le voir chez beaucoup d'auditeurs et pas forcément chez Nobi.
Ah moi, je pensais que c'était chez Pika tout court.
Non, c'est Nobinobi.
C'est très étonnant. Mais c'est bien qu'ils sortent des shonen aussi. Enfin, ils ont de la sortie des shonen, mais plus kids.
Au grand air, par exemple. vous savez.
Là, c'est un peu au grand air, mais.
C'est
au grand air dans l'espace.
La passion du. Non, mais c'est vrai que la passion du pique-nique sur des planètes étrangères, on la retrouve aussi dans Astra Lost in Space.
Ils font des pique-niques dans Astra.
C'est vrai. C'est juste qu'ils le font avec des aliments qu'ils ne connaissent pas.
Ouais. Et ils les mangent.
Dans le doute.
Ils les mangent.
Astra Lost in Space. À suivre également, on va parler d'un autre sujet. Là, on part sur quelque chose de lourd. En 2019, vous savez ce qu'il va y avoir ? Le retour de Kishimoto.
Ah, ça, c'est cool.
Là, ça devient sérieux.
Là, on rigole pas.
L'auteur de Naruto est de retour en 2019. C'est sûr et certain, au Japon, en France, on n'en sait rien.
Ouais.
Bon, c'est fichtrement rien si ça va arriver en France, mais...
Si, ça va arriver quand même.
Je me dis que un auteur comme ça, comme Kishimoto, qui est de retour au Japon, je me dis que les éditeurs vont tout faire pour essayer d'avoir une sortie pas simultanée, mais pas loin, quoi.
Oh je pense qu'ils sont déjà en train de se taper les uns les autres pour l'avoir, tu vois.
Samurai 8, Hachimaruden, l'auteur donc de Naruto est de retour, mais il sera seulement au scénario.
Oui,
ouais. Alors, c'est un peu décevant, quelque part, enfin pour moi qui suis un gros fan de Kishimoto, c'est un peu décevant de savoir qu'il sera pas au dessin. Mais en même temps, je persiste et signe Naruto, scénaristiquement parlant, malgré les longueurs et compagnie, c'est un manga qui se tient très bien. Donc, pourquoi il nous ferait pas une petite Togashi, tu vois ? Togashi passe son temps à dire « mais moi j'aimerais bien que scénariser », mais il le fait pas. mais en vrai, t'as des bonnes idées, t'as pas le temps de les dessiner. Bah vas-y, fais tourner. De toute façon, c'est les samouraïs. Moi, j'aime bien les samouraïs.
Non, mais puis de toute façon, moi, je trouve que c'est quelque part une bonne nouvelle. Non pas que j'aimais pas le trait de Kishimoto. J'étais très fan du trait de Kishimoto. Là, il a pris son premier assistant pour bosser avec lui.
Ah, mais c'est un assistant de Naruto. Donc, en plus.
Oui, c'était son premier assistant sur Naruto. Son chef assistant. Je sais pas s'ils ont des chefs assistants. Là, j'invente un peu. Mais
son chef c'était assistant. C'était le Zoro de son équipage.
C'est ça, c'était son commandeur, ouais, son numéro 1, quoi. C'était son numéro 1. Et il le met au dessin avec lui, donc ça veut dire qu'ils se connaissent, qu'ils savent bosser ensemble, et surtout ça veut dire que Kishimoto, qui devait avoir une vie de merde quand il faisait Naruto, en vrai, auteur de manga, c'est pas un truc qu'on peut envier forcément.
Ah bah non, oui, c'était un bourreau de travail, donc
c'est ça, tu dors 4 heures par nuit, tu fais que ça. Là, il va faire le scénario, il supervise Boruto à côté.
C'est ça, il a peut-être envie d'avoir une vie un peu plus tranquille aussi.
Ouais, donc je pense qu'il va avoir une vraie vie sympa, ce qui veut aussi dire qu'on aura peut-être une chance de le voir en Europe.
Ah, oui, qu'il puisse. Mais par contre, pour moi, c'est pas forcément la vraie nouvelle série de Kishimoto, parce que Kishimoto, il avait dit qu'il voulait faire un truc de SF.
C'est de la SF ? C'est des samouraïs.
C'est un truc de samouraïs.
Ouais, mais ils sont dans l'espace.
Ah, je sais pas.
Des samouraïs dans l'espace.
Je savais pas que c'était des samouraïs dans l'espace. Du coup, je me disais, sûrement, il doit préparer un truc, tu vois, où il fera scénario et dessin pour après.
Mais c'est des samouraïs. Mais dans le futur. Pas dans l'espace.
Mais attends, mais en fait, je crois que j'ai pas lu le pitch de ce manga.
Il n'y a pas eu de vrai pitch. On dit juste que ça va être des samouraïs dans le futur.
Ils ont des katanas laser.
Ils ont... Non.
Ah bah.
On n'a pas vu.
C'est pas des samouraïs dans le futur.
Mais
là.
C'est des samouraïs dans le futur. On n'en sait pas plus pour l'instant aujourd'hui. Là, maintenant.
Ah, ça pourrait être genre des samouraïs, mais transposés à notre époque. Parce que le futur, c'est vague.
Non, ils sont dans le futur.
Ah, le futur, futur.
Ils sont dans le vrai futur.
Ouais, donc, j'avoue, je sais pas.
Le futur du futur, quoi. Non, mais on en sait quasiment rien. On a juste vu. Vous avez vu le design du,
ouais, j'ai vu
le
ouais,
personnage.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on sait d'autre ?
Il a pas une jambe en moins, le héros, un truc comme ça ?
Si, mais c'est ça. Ah, mais oui, c'est ça. En fait, quand je dis en plus, il a une. Comme dans Full Metal Alchemist.
Oui.
Il a une jambe.
Une jambe robot.
Prothèse ouais. mécanique, quoi.
Tu vois, voilà. Mais évidemment que c'est dans le futur. Voilà.
J'en sais rien, moi.
Comment tu vas avoir une jambe robot si t'es pas dans le futur ?
Moi, quand j'ai vu le nouveau titre de Kishimoto, j'ai mis de côté et j'avais dit, bah ouais, carrément. M'en fous. Tu peux me dire que tu vas faire un yaoi si tu veux. Bah, je vais le suivre.
Bon, bah voilà. En tout cas, c'est un peu la hype à suivre cette année. De toute façon, tout le monde va en parler. Oui. Et puis quand ça va sortir.
Tout le monde en a déjà parlé, là. Alors qu'il y a rien. En gros, il y a rien à dire. Tu vois,
c'est fou, en plus ils ont annoncé ça le 24 décembre ou le 23, quoi, au moment de Noël.
Ouais.
Donc nous on était tous partis à droite à gauche et on voit ça arriver. Quoi ? Pourquoi quoi maintenant ? Non, c'est annoncé pendant le Jump Festa au Japon.
Chaud.
Samurai Hachi Maruden, le retour de Kishimoto, c'est à suivre en 2019. L'autre chose qui est à suivre, c'est encore et toujours du Isekai en 2019. On en a vu beaucoup, des titres isekai.
Ça va faire plaisir à Flavien,
sortir,
ça.
qui adore ça. Sauf que là, elle sera riche en isekai, mais un peu différemment, avec deux titres de ce début d'année. Deux titres du mois de février, avec Dragon Ball Extra,
comment je me suis réincarné.
Comment je me suis réincarné en Yamcha, ouais, voilà. Et puis le City Hunter, là aussi, qui est un isekai.
Pour moi qui aime moyen les isekai, tu vois, c'est pas vraiment ma cam, je me dirige pas forcément vers les titres isekai. Là, on en arrive à la partie qui commence à m'intéresser. Parce que là, on en arrive à la partie méta des isekai.
Ça, ouais.
C'est-à-dire, tu te réincarnes, mais dans des licences connues. Et le Yamcha, je l'ai lu, honnêtement, c'est jubilatoire. C'est une parenthèse jubilatoire.
Mais il est trop cool.
C'est court. Mais c'est trop cool.
Mais c'est trop
une
court,
bonne idée,
surtout.
Tu vois. Le City Hunter, je l'ai pas lu, mais je l'attends très très fort aussi parce que là,
c'est
pour
une
moi,
vraie bonne idée aussi, le City Hunter.
Ouais. Là, il y a une vraie bonne idée et tu vois, le Yamcha, je le rapproche parce que je l'ai rematé il y a pas très longtemps, mais de Last Action Hero, qui est un de mes films vraiment cultes. Et là, on est dans un truc intéressant de l'isekai. Là, on est dans un truc où tu fais référence à l'œuvre, t'es méta, le Yamcha, il était trop bien.
L'histoire trop bien, du Yamcha, c'est un mec, un lycéen lambda, qui se réincarne dans la peau de Yamcha. Mais sauf que lui est fan de Dragon Ball, c'est un fan de Dragon Ball qui se réincarne dans la peau de Yamcha et qui se retrouve à devoir vivre la vie de Yamcha. Mais en connaissant connaissant son futur.
En sachant ce qui va se passer, qu'il va se faire buter et tout.
Il est pas forcément d'accord pour ne pas finir avec Bulma. Enfin, tu vois. Il y a tout un tas de petites questions comme ça qui sont intéressantes. Et dans le City Hunter, c'est une fan de City Hunter qui se retrouve plongée aux côtés de Ryo Saeba.
Donc elle sait à quoi s'en tenir. Quoi.
Elle sait aussi à quoi s'en tenir.
Mais vraiment, le Yamcha était trop cool. J'aimerais bien un peu plus. J'aurais bien aimé que ça soit pas juste un one shot. Mais en même temps, si tu vas plus loin, ça commence à devenir un peu problématique.
On en parlera un peu plus longuement, mais on fera même une émission qui, en 2019, qui sera dédiée au isekai, ou en tout cas à cette forme d'utilisation du isekai. Ouais.
Ah bah c'est comment Fabien ça qui peut, animera cette émission.
Non, mais comment ça va pouvoir permettre à des licences de continuer à vivre sans que les auteurs aient forcément besoin d'intervenir.
Ouais, mais là tu vois, enfin ça ouvre le champ des possibles de ouf quoi. Tu peux faire un isekai dans Slam Dunk, tu peux en faire un dans Fly.
En fait ouais, ce qui est super c'est qu'il y a vraiment un dialogue entre l'œuvre et son lectorat là. Pour le coup il y a un espèce de...
Complètement, sachant que pour l'auteur de Dragon Ball Extra, Garo Lee, c'est un mec qui faisait déjà des fanfictions de Dragon Ball à la base.
Qui était
et
déjà
de Dragon
fan,
Quest également pour Fly. Mais qui était déjà fan et qui avait déjà le trait, qui maîtrisait déjà les personnages et ainsi de suite. Quoi.
Ah mais moi je veux lire un moi réincarné en popu, tu vois. je veux trop lire ça quoi.
Il y a un autre isekai qui va sortir en ce début d'année, c'est chez Delcourt Onkam, ça s'appelle Fantasy Lazy Life. Là aussi il s'amuse à sortir un isekai qui est un peu plus côté humour que côté aventure. C'est un salaryman qui se retrouve plongé dans une société matriarcale et qui va devoir mettre à profit ses capacités de contrôleur de gestion. On va passer au festival d'Angoulême qui arrive à la fin du mois de janvier. L'an dernier, le festival d'Angoulême avait impulsé quelques trucs, avec l'avenue de Urasawa, avec l'avenue de Hiromashima. Ça avait donné un petit tempo sur ces deux auteurs.
Ah bah carrément. Il y a cette même année, une grosse expo Urasawa à Paris
qui était géniale.
Et cette année, la star, c'est Taiyo Matsumoto.
Ce bon vieux Taiyo Matsumoto.
L'auteur de...
Ah bah pour moi, c'est Amer Béton.
Ouais, bah j'aurais dit ça aussi. Ouais.
Mais pour moi aussi, c'est Amer Béton.
Le Samouraï Bambou, il en a fait plein. Number 5, chez Kana aussi.
L'éveil.
Comment il s'appelle le dernier
L'éveil.
Non, le truc de mon père. Là.
Mais si, enfin, il y a le rêve de mon père, mais ça, c'est pas la nouveauté, c'est l'éveil.
D'accord, mais j'étais persuadé que c'était la nouveauté, parce que je l'ai vu un peu partout dans la presse et tout. Je croyais que c'était ça la nouveauté, en fait.
Eh bien non, c'est l'éveil.
Eh bien non.
Ça fait trois fois que je le répète.
En tout cas, il nous a fait une superbe affiche et l'expo, à mon avis, va être superbe aussi.
Elle est mortelle. Elle est trop bien.
Bah ouais.
Elle
est trop bien. La meilleure de. Parce que les autres affiches d'Angoulême.
Mais d'ailleurs, qui va à Angoulême cette année là?
Moi j'y vais.
Maxime?
Non.
Pourquoi?
Parce que je n'ai pas le temps cette année.
Je vous ferai un report, je vous dis.
J'y vais pas non plus.
J'irai voir les expos de Matsumoto et Nihei, parce que Nihei aussi
est à l'honneur, et puis l'auteur de Beastars dont on parlait en début d'émission est là-bas aussi. Anne Matsumoto pour vous?
Anne Matsumoto, c'est compliqué parce qu'en fait Matsumoto il est connu et reconnu depuis pas mal de temps maintenant, c'est pas un auteur qui a besoin de...
Ouais, mais il est pas aussi célèbre qu'un Urasawa par exemple.
Non, bien sûr, mais il fait pas des bouquins à la Urasawa non plus.
Non plus.
Il fait des bouquins un peu plus techniques, enfin un peu plus arty, on va dire. Mais en vrai, dès qu'il y a un bouquin de Matsumoto, c'est toujours un mini événement, alors dans le microcosme manga, mais c'est un auteur qui est connu.
Mais moi aussi, je pense que je vais soit en lire, soit en relire, mais ça va bien me chauffer, ouais.
Par contre, c'est l'occasion de lire, de découvrir, si vous connaissez pas Matsumoto, alors juste Amer Béton, qui est vraiment mon préféré, Ping Pong, je crois que Delcourt fait une réédition de Ping Pong aussi. C'est vraiment l'occasion de lire ses œuvres parce qu'elles sont ouf.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as de ouf dans une œuvre de Matsumoto pour toi?
C'est très compliqué pour moi d'expliquer parce que c'est un dessinateur qui change de style de dessin limite à chaque bouquin, et le gars est un virtuose. Il peut changer de style à chaque fois, c'est un tueur. Et Ping Pong, t'as un côté très énergique où vraiment tu te sens dans un match de ping pong. Il est slam dunkien pour ça, tu vois, dans Ping Pong. Amer Béton, c'est une histoire qui est trop cool, qui a un peu du rapiclé. C'est lui, suit deux gosses dans une ville délabrée où la mafia a pris le contrôle de la ville. Et tu suis deux gosses qui essayent de survivre. Mais c'est trop cool. Faut le lire sur ma bonne foi, tu vois. C'est vraiment genre, faites-moi confiance, lisez-le.
En tout cas, 2019, vous allez avoir du choix en Matsumoto, c'est sûr, vous allez le voir en librairie. Un autre truc que vous allez voir en librairie encore et toujours, j'ai envie de dire, ça a marché en 2018, ça a marché en 2017, ça a marché en 2016, ça a marché depuis la nuit des temps, c'est la fantasy.
Ah, la fantasy et le manga.
Ouais. On n'avait pas fait une émission là-dessus.
Il y aura encore des kilos et des kilos de fantasy cette année, en 2019. Il y en aura un peu pour tout le monde. De la dark fantasy, de la fantasy familiale, de la fantasy classique, de la fantasy très très manga.
Oui.
Voilà, là j'ai 4 titres. Fantasy classique, Grand Blue Fantasy, ça sort chez Pika Edition. C'est fantasy RPG, c'est du classique, c'est...
C'est inoffensif, c'est... Enfin, inoffensif pas dans le sens où c'est mauvais, mais si t'adores le genre fantasy... Bon, ça remplit toutes les cases, ça marche bien, c'est beau, j'ai trouvé le manga très très beau, c'est propre, c'est efficace. On n'est absolument pas dans du dark fantasy, on est vraiment fantasy. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que dans le tome 1, en pitchant très rapidement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui aspire à être chevalier et à découvrir le reste du monde. Il va rencontrer une fille qui a des pouvoirs magiques. Et ils vont se lier l'un l'autre et ils vont aller combattre l'Empire. Ce qui m'a fait marrer, c'est que quand ils se décident à aller combattre l'Empire, il n'y a aucun objectif. Il y a vraiment juste on part à l'aventure. C'est pas genre on va détruire l'Empire.
Mais comme dans toutes les histoires de fantasy.
Non. Tu peux avoir un but, vraiment.
Oui, trouver un trésor.
Dans les fantasy, dans les histoires classiques comme ça, très, très JRPG.
Ouais, c'est du RPG. C'est vraiment du RPG.
C'est issu d'un RPG japonais, donc oui.
Dans Fly, leur objectif, c'est d'aller combattre le roi du mal. Là, c'est l'aventure tout court. J'étais là, ah bah ok, on s'en bat les couilles d'avoir un objectif.
En fait, c'est quoi? C'est les événements qui leur tombent dessus ou...
Oui, c'est
parce
à peu
que
près
c'est
ça.
C'est vrai que le JRPG, c'est un peu... la littérature japonaise est un peu comme ça, la littérature d'aventure japonaise. Le héros, il a jamais vraiment d'objectif. Les choses lui tombent dessus.
Ça lui tombe dessus et c'est vraiment... Il y a un moment où ils disent, on part à l'aventure. Et t'es là, mais c'est quoi l'aventure? Enfin, c'est quoi? Le méchant est identifié, l'Empire, mais ils disent même pas, on va aller combattre l'Empire. C'est juste, on part quoi. On part, nique sa mère.
On appelle à l'aventure, t'as Magus of the Library of the... je vais le faire à la française. Magus of the Library.
Je l'ai pas lu celui-là.
Là aussi, c'est vraiment... c'est l'appel à l'aventure quoi. C'est du conte. Du conte et de l'heroic fantasy.
Très bien.
Et bah voilà.
Mais version, donc là, autant Grand Blue Fantasy, ça va être issu du JRPG. Là, on est vraiment du grand public.
Ok.
On est un peu plus narnien.
Ça me correspondra peut-être un petit peu plus. Mais bon, en même temps, Grand Blue Fantasy, j'ai eu les deux tomes. En vrai, je les ai avalés, tu vois. Je les ai vraiment lus très rapidement et ça marchait très bien.
Grand Blue, ça sort chez Pika. Magus of the Library, ça sort chez Kiun. On a aussi de la fantasy shonen, très classique aussi. Classroom for Heroes, qui sort chez Doki Doki. Et puis, on a de la dark fantasy Ragna Crimson, qui sort chez Kana. Voilà, là, il y en a pour tous les goûts.
Bah, on a le retour de Berserk aussi.
Oui, on a le retour de Berserk, évidemment.
Dark Fantasy.
C'est vrai, mais c'est pas une nouveauté, là.
Non,
c'est vrai. Tu crois que Berserk, ça sera encore une star cette année?
Dès qu'il y a un tome qui sort, c'est comme Hunter, tu vois. Ça remonte.
En parlant de retour, il y en a quelques autres qui vont arriver. Fairy Tail est de retour encore cette année. Vous pensiez être débarrassé.
Non. J'avoue qu'il y a un petit côté bas les couilles. Très bien, continue ta route.
Fairy Tail 100 Year Quest, donc la suite attendue, la quête de 100 ans. Ça sort au mois de mars, donc pour tous les fans de Fairy Tail, la suite arrive enfin en France. Enfin, elle est sortie en milieu d'année dernière au Japon.
Mais c'est quoi? C'est une série longue?
Oui, c'est toujours en cours là au Japon. En fait, à la fin de Fairy Tail, ils partent en mode je m'emballe avec, viens, on va faire une nouvelle quête.
Ouais.
La fameuse quête de 100 ans que jamais personne n'a pu faire.
Ah, d'accord.
Et donc ils vont la faire. Voilà.
Ils vont la faire. Donc c'est la nouvelle série régulière de Fairy Tail, quoi.
C'est ça. C'est la série régulière. On appelle ça un spin-off, mais c'est c'est la suite de Fairy Tail, quoi.
Ça commence à se la jouer un peu comics Marvel là quand même.
Ouais, c'est ça.
Genre ça devient la série régulière, tu vois, bah c'est la suite, mais ça se tient.
Autre retour, c'est Basilisk. Si on aime le ninja un peu plus dark que Naruto, enfin même si Naruto aussi ça, ça devient très dark à un moment donné. Basilisk est de retour pour la Saint-Valentin.
Oui.
14 février, avec donc la série normale, la première vieille série Basilisk, et avec un spin-off qui est de retour en même temps. Détective Conan va aussi refaire parler de lui. Non pas que les tomes de Détective Conan ne sortaient plus, hein, Détective Conan continue d'être publié.
Bah oui, ça continue.
Mais il va y avoir un spin-off de Détective Conan cette année.
Ok.
Et puis on aura le tome 36 de Hunter x Hunter. Chaque année, c'est un retour. Hunter
bah
Hunter.
Voilà, à chaque fois. C'est...
Ah, ça, je suis chaud, chaud.
On aura notre petit tome annuel, quoi.
Voilà, notre petit tome, tranquille.
Voilà, ça, c'est, ça fait partie des retours.
Et
puis...
on en parlera. Et on va le décortiquer.
Bien sûr, évidemment. Puis un autre grand retour cette année, c'est le retour de Slam Dunk. Est-ce que ça va être la star de l'année, Slam Dunk?
Bah, pour quelqu'un, ouais, ça va être la star, je pense.
Mais ça tombe
il
bien
de toi, Kanyar.
Je les ai relus chez mes parents là, pendant Noël. Je les ai
relus. Pourquoi tu l'as relu? Il y a une nouvelle édition qui arrive. Pourquoi t'as relu la vieille?
Il va la lire, il va les lire, tu sais, à côté chaque tome pour voir la différence. Et,
ouais, genre un main gauche, un main droite. Bah non, mais parce que ça fait. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà dit. Pour Slam Dunk, c'est le manga que je lis, que je relis une fois par an.
Ton manga
obligatoirement, je le relis. Donc c'est cool. Les nouvelles jaquettes, tout ça, nouvelle tomaison, il y aura que 20 tomes au lieu des 31, si je dis pas de bêtises. Ça va être trop cool, et surtout, en fait, ce que j'attends le plus, c'est le nombre de gens autour de moi qui ont jamais lu Slam Dunk et qui m'entendent parler de Slam Dunk. Je suis sûr que là, du coup.
Genre moi, quoi.
Ouais, bah, genre Robin, tu vois, mais j'ai plein de gens autour de moi qui ont jamais lu Slam Dunk et j'ai envie de voir la flamme dans leurs yeux, là, tu vois. J'ai envie de la voir.
On va essayer de se dépassionner un petit peu. Quel impact,
ça va être chaud.
Quel impact ça peut avoir un Slam Dunk qui ressort là en France? Est-ce que ça peut avoir un impact comme si c'était jamais sorti? Mais tu sais, avec les vieux de la vieille, les comme Cagnard qui vont faire il faut lire Slam Dunk, évidemment. Et il y a toute une nouvelle génération qui va sauter dessus ou pas du tout?
Bah, pour moi, il va y avoir un côté patrimoine. Voilà les classiques du manga, vraiment le patrimoine du Shonen Jump, voilà, vous pouvez le découvrir maintenant. Puis j'espère que tous les lecteurs de Kuroro, bah, qui vont capter ce que c'est un manga de basket, en fait. Ah oui, Kuroko et Kuroro, c'est autre chose. C'est un autre genre, mais j'espère, ouais, en vrai, j'espère, et en même temps je saoule tellement les gens avec Slam Dunk que j'ai peur. Parce qu'en plus, le début de la série, c'est un peu comme Yu Yu Hakusho. Le début de la série, il est assez timide, tu vois. C'est pas un.
Oui, il est classique après, enfin, il est classique de manga de sport.
Ouais, mais là, on passe après d'autres mangas de sport qui sont sortis, genre les Aishid, genre les Kuroko, tu vois. Où maintenant, peut-être que les lecteurs ont un peu plus l'habitude d'un truc très punchy, alors que Slam Dunk, c'est un truc qui se savoure avec. c'est une vraie montée en puissance.
Bah, c'est ça, c'est une double question que je me pose. C'est est-ce que, comme le manga de sport n'est pas un carton en France, quel impact cette sortie de Slam Dunk, meilleur manga de sport du monde, va avoir? Et est-ce qu'il y a tout un nouveau lectorat qui va faire ah mais enfin je m'étais jamais je l'avais toujours dans un coin de ma tête, je vais en profiter, maintenant je fonce dessus. Est-ce que toi Robin t'imagines que ça puisse faire un vrai événement comme si c'était une vraie nouvelle sortie?
Bah moi oui, de toute façon je pense que ça va être pour moi l'occasion de le lire et je suis très content d'avance parce que vu ce que Cagnard en dit, a priori ça devrait me plaire.
C'est le meilleur.
Mais je pense qu'on est arrivé aussi à un moment de l'histoire du manga qui est intéressant parce qu'il y a avec ces ressorties de classiques, on est vraiment en train de devenir le manga est vraiment en train de devenir un média qui, tu sais, qui s'auto qui dialogue avec lui-même et qui commence à remettre en avant des séries qui sont des classiques. Et tu sais, un peu voilà, comme je dis à chaque fois, la pléiade dans la littérature, là on commence à avoir notre pléiade, ouais, du manga, tu vois, genre tous les grands auteurs, maintenant t'as l'occasion de les redécouvrir, on te les refait découvrir en recontextualisant.
Et c'est pas juste une course à la nouveauté, enfin, qu'une course à la nouveauté.
Ouais, et puis là je pense qu'en plus avec cette édition là, on n'est pas forcément sur un produit qui s'intéresse que aux fans de Slam Dunk. C'est assez calibré, c'est calibré justement pour.
Oui, c'est pas une édition luxe pour essayer, à 15 euros.
Pour essayer de capter un nouveau lectorat, c'est vachement intéressant, quoi. Enfin, moi je trouve ça chouette.
Et puis c'est le retour en France d'un des mangas les plus vendus au monde. C'est plus de 120 millions d'exemplaires, Slam Dunk, dans le monde. Hein.
Ouais, bah, cette édition au Japon, elle s'est vendue de ouf, alors que c'est une réédition. C'est vendu de ouf.
Et même tout Slam Dunk, ça fait partie des 10 mangas les plus vendus,
oui, c'est vrai,
achetés et lus au Japon.
Et possédant mes 31 tomes, je vais l'acheter, hein, cette collection. Bien évidemment que je vais l'acheter.
Et tu vas garder tes anciens ?
Je sais pas, non, je pense que je vais les offrir. Les anciens, je pense que je vais les offrir. Mais celle-là, a priori, a une. Bah, du coup, vu qu'il y a que 20 tomes, c'est une. Le découpage est différent.
Ouais.
De ce que j'ai compris, c'est pour moins couper en plein match. Donc en fait je vais voir vraiment au niveau du découpage ce que ça va donner, parce que j'adorais le découpage des tomes précédents, donc à voir si je suis bien surpris, c'est cool.
Et puis surtout on va préparer une émission sur Slam Dunk, évidemment.
On va faire une émission Inoue, parce qu'il y a Vagabond, hein, va falloir parler de Vagabond aussi à un moment.
Oui, mais alors tu sais, dans le programme où t'as dit que t'étais ok etc, c'est une émission Slam Dunk qu'il y a.
Ouais, mais va falloir parler de, parce qu'il y a des corrélations entre
en
Vagabond
fait,
et...
soit ça, soit tu es viré, hein, tu n'as plus le choix à un moment donné.
Mais de toute façon je savais que j'allais finir par me faire virer, alors je vais faire en mode vida loca, tu vois, alors, je vais y aller et c'est tout quoi.
Slam Dunk c'est donc le manga qui méritera une émission cette année, et l'une des stars de cette année. Qu'est-ce qui reste d'autre au Japon qui est pas sorti en France? Là je pense que on commence à avoir fait le tour de toutes les grosses licences qui ne sont... Elles sont toutes sorties en France. Enfin, c'est ça que je veux dire.
Les grosses sorties.
Là, il n'y a plus de trucs au Japon où on se dit, mais pourquoi ça sort pas en France ?
Comme disait Robin, je pense qu'il y a un. Il en parlait au niveau du patrimoine, tu vois, où maintenant on va s'intéresser de plus en plus au patrimoine. On est aussi dans une phase où on est à jour avec le Japon, vraiment. Donc, au niveau des grosses licences en tout cas, donc ça va aussi être le moment de s'intéresser peut-être à des séries un petit peu plus méconnues, tu vois. Ça augure quelque chose de bon, je trouve.
J'ai Pierre Valls, l'éditeur de Kazé, qui me disait que là, il va y avoir vraiment une bataille pour faire des middle busters, des blockbusters.
Ouais.
Il me disait que voilà, lui, il était à la recherche de titres moyens-hauts parce qu'il n'y avait plus de gros titres tout court.
Bah, ils ont tous été signés là. Mais je pense que tu vois, typiquement, un Starving Anonymous de chez Pika, c'était un middle buster. Et alors je connais pas du tout les ventes, hein, de ce site, mais le problème c'est que je l'ai vu un peu nulle part en termes de critiques, tu vois.
Après moi j'en ai retrouvé quelques-uns des mangas un peu connus qui peuvent revenir, que ce soit sur les réseaux sociaux. Par exemple, un Grand Blue n'est jamais sorti en France, un manga sur la plongée plutôt humoristique. L'animé existe, l'animé est dispo sur Amazon Prime par exemple, mais le manga lui n'est jamais sorti. C'est on va dire que c'est le Soul Kingdom dans les
dans les trucs attendus.
Voilà, il est pas au niveau de Kingdom, mais effectivement il est souvent cité quand tu sais, sur internet les éditeurs teasent souvent leurs annonces de nouveaux mangas.
Ouais, c'est un titre qui revient souvent dans les
Grand
propositions.
Blue, voilà, il peut
jamais
revenir.
J'ai entendu parler.
On a aussi Jujutsu Kaisen qui est le dernier gros titre du Jump qui a pas été annoncé en France.
D'accord.
Très classique, très bleach. Hein.
Non mais très c'est bleach, parfait ça, très bleach. Voilà.
On a Bakemonogatari, qui est une très 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 grosse licence au Japon. Roman, animé, manga, tout se vend par kilo, par palette.
Figurine.
Tout. Je la totale. Le manga Bakemonogatari, c'est un manga avec Ogreit au dessin. Vous vous souvenez de Ogreit?
Ah bah Ogreito. Oui. Enfer et Paradis.
Et Elgir. Manga qui est de la, ça va te plaire, de l'urban fantasy.
Ah bah oui.
en milieu scolaire,
en milieu urbain,
en milieu urbain, milieu urbain et scolaire forcément. Ça c'est pas sorti en France encore, c'est pas annoncé. Alors il y a des chances que ça puisse être annoncé en France, mais en tout cas ça l'est pas aujourd'hui.
Ouais.
On a Act Age, un autre manga du Shonen Jump, qui lui à mon avis ne sera pas annoncé en France, mais qui est un autre manga qui fonctionne beaucoup, s'il plairait beaucoup à Flavien ce manga, Act Age, puisque c'est sur l'improvisation théâtrale.
Ah oui, bah oui, ça va lui plaire.
Et ça plaira pas à Cagnard.
Ça va pas me plaire, je le dis d'avance.
Le manga Demon Tune n'a toujours pas été annoncé non plus, c'est l'auteur de Bloodlad qui revient avec ce titre.
Ah putain, je kiffe Bloodlad.
Nouveau manga de Oki dont on a parlé dans une précédente émission qui s'appelle Gigante.
Oui.
Vous vous souvenez, donc Oku, c'est l'auteur de l'Astiro et Nuyashiki,
ouais,
l'auteur de Gantz.
C'est l'actrice porno, c'est ça?
C'est ça, l'actrice porno qui a des pouvoirs de gigantisme.
Ouais.
Et dont l'auteur a été sur des tournages porno pour pouvoir s'entretenir avec les actrices, avec les comédiennes.
En parler et tout.
Et pouvoir retransmettre ça dans
J'ai vu quelques visuels dans le dernier... Non, c'était pas le dernier numéro d'Atome, mais c'était dans un numéro d'Atome où il faisait une interview. Ça a l'air trop beau. Et rien que le pitch a l'air complètement taré.
Ouais,
donc,
c'est clair.
Ça me me tente.
Donc lui, c'est sûr que alors ce sera peut-être pas cette année, mais c'est sûr que ça arrivera en France, un manga arriver, comme, ouais, comme Gigante. Mais moi, j'ai un petit, j'ai aucune info, mais j'ai un petit sentiment que ça peut arriver cette année.
Chez qui tu le miserais, chez qui celui-là?
Bah, comme la Styro Inuyashiki était chez Kiun, je le mettrais bien chez Kiun aussi.
Ouais, mais en même temps,
Gantz c'était chez Delcourt, donc peut-être une bataille Delcourt, Delcourt, Tonkam, Kiun. Ouais.
Allez, vas-y, moi je mets une pièce sur Kiun.
Moi j'en ai aucune idée.
Je mets une pièce, hein, j'en sais rien.
Mais... T'as et pas puis... dit une pièce de combien?
C'est ça, une pièce de 2 centimes du coup.
C'est une pièce de 200 000 euros.
Et puis un autre manga qui est de retour au Japon aussi, après un petit moment d'absence, c'est Kenshin. Kenshin dont on ne parle plus du tout en France.
Oui.
Non. Enfin, on en a parlé, mais oui, pas dans les circonstances.
On a parlé de l'auteur, mais pas forcément du manga. Non, mais voilà, je sais pas si Kenshin a un potentiel de retour en France, commercialement parlant.
Ça a été reporté de toute façon, parce que normalement Kenshin devait revenir, mais à cause des soucis.
Mais ouais, mais du coup, je sais pas.
Je sais pas. Moi, c'est un de mes mangas préférés, mais après, je sais pas si des gens qui l'ont. Enfin, c'est quand même vieux, tu vois.
Bah, c'est très vieux, Kenshin. Autant, tu vois, genre, je miserais plus sur un retour commercial de Slam Dunk qui va arriver.
Ouais.
Que Kenshin, tu vois.
Ouais, mais là, Slam Dunk, c'est re.
Ouais, c'est une réédition.
C'est réédition. Là, c'est pas la
suite.
Là,
ça serait une suite, ouais. Vous êtes nombreux quand même, hein, vous, les fans de Kenshin. Vous êtes nombreux. Vous parlez pas beaucoup. On vous entend pas trop, mais vous êtes nombreux.
Mais parce qu'en fait, on a eu ce qu'on voulait avec Kenshin, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, genre le dernier arc, déjà, c'est pas le mieux, c'est clairement pas le mieux. Enfin, après Shishio, tu vois, c'est clairement pas le mieux.
On aurait plus eu envie d'un nouveau manga, mais en fait, les mangas qu'il a fait.
Et c'était pas terrible, donc du coup.
Embalming.
Ouais, c'est ça, c'était pas foufou, quoi. Donc,
c'était pas foufou.
Du coup, je sais pas, Kenshin, ça reste pour moi une licence.
Après, voilà, je le lirai avec curiosité s'il sort, mais.
Ah bah, moi aussi.
Mais pour l'instant, il est pas prévu que ça sorte.
Ils sont nombreux, quand même. Vraiment nombreux, même parmi, et c'est là la grande force de Kenshin, c'est que ça concerne des lecteurs hors manga. Tu as des lecteurs qui n'ont lu qu'un seul manga dans leur vie, bah c'est Kenshin. Enfin, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui ne connaissaient que Kenshin.
Ah ouais, moi je n'en connais, mais ils sont vieux alors.
Bah ils ont.
Bah de toute façon, ça. Bah de toute façon. Ouais, moi ça sortait quand j'étais au lycée, donc c'est vieux. Hein.
Ouais, non, je sais pas, moi je ne connais pas de monolecteur de Kenshin.
Ah non, moi j'en connais.
J'en
ai rencontré.
Des monolecteurs de fruits de basket, par exemple.
Oui, tu vois. Et eux aussi sont nombreux.
Nombreuses, du coup, elles sont principalement.
Non, nombreux,
filles.
Et nombreux.
Mais qui sont pour qui le manga s'est arrêté là.
Avec
au lycée, point. Et c'est tout.
J'en ai rencontré pas mal des gens qui lisaient pas de manga, mais Kenshin, c'était leur série, quoi.
Ok, mais en tout cas, c'est pas prévu que ça revienne en France, mais vous pouvez toujours relire Kenshin.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Il y a une très belle édition de luxe, les Glénat. Ouais. Elle est magnifique, leur édition.
C'est fini pour le manga. En tout cas, de ce qu'on a pu repérer, de ce qu'on a le droit de dire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais qu'on sait. Mais on peut avoir aussi des surprises. Et surtout, il n'y a pas que le manga dans la vie, il y a aussi un peu l'animation et un peu le cinéma.
Ouais, un peu.
Bon, vite fait. Il y a un film Dragon Ball Super, qui a déjà fait beaucoup parler de lui en mal.
Ouais, le film Broly, là.
Ouais, le film Broly. Ouais, ouais. Alors je dis, il a fait parler de lui en mal, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens frustrés, parce que ça ne sortait pas en même temps en France qu'au Japon.
Ouais.
Voilà, mais il y a une avant-première au mois de janvier qui est déjà complète de toute façon.
Bah oui, c'est de la complète, ça va être un carton.
Et puis de toute façon, oui, le film Dragon Ball Super, ça va être un carton. Voilà, point.
Moi, ça
mais en tout cas, il existe, c'était juste pour le signaler.
Ça me fait juste plaisir quand je repense à, genre, moi, quand je suis allé voir le film Dragon Ball Fusion au cinéma, tu vois, quand c'était trop cool de voir Dragon Ball sur grand écran, donc là, je vais absolument pas y aller, ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis content pour les petits jeunes qui vont y aller, tu
les
vois.
Petits jeunes.
Il y aura aussi One Piece au ciné cette année, ouais, il y aura My Hero Academia au ciné cette année.
Tout pareil, je suis content pour les petits jeunes, allez-y, foncez. Ouais.
Et puis il y aura Gun.
Et ça.
Au cinéma.
Là, ça me concerne.
On fera aussi une émission sur Gun. Je pense qu'on ira très tôt le voir et puis on fera une émission la semaine de sa sortie pour vous dire ce qu'on en a pensé. Effectivement, on est chaud patate.
Ah bah, moi, c'est day one. Hein, de toute façon, c'est day one.
J'ai eu le plaisir, moi, déjà, de voir. 30 minutes, un peu moins de 30 minutes de film.
Ouais, tu m'as bien foutu le seum.
En fait, j'ai vu des scènes du film, mais dans le désordre. C'est-à-dire que j'étais invité à une projection professionnelle et on nous a montré différentes scènes du film Gun dans le désordre.
Ouais, c'est genre 30 minutes.
Ouais, un peu moins tout, de 30 minutes, je pense, mais franchement, c'était dans le désordre, donc du coup, c'était.
Ouais, tu sais pas quel sens avait l'enchaînement des scènes.
C'était en termes de FX. Oh là là là.
Bah c'est de l'EMS.
Oh là là
c'est
là là là.
L'EMS met toujours son billet.
C'est Robert Rodriguez.
Non, oui, mais
Robert,
celui qui met les sous.
Bah oui, c'est ça. L'EMS, il met la thune. Quand il met la thune, l'EMS, c'est jamais pour rien. Son dernier film, c'est Avatar. Hein. Ça remonte. Ouais.
Ce qui m'a fait rire, c'est que.
Le plus grand succès du cinéma de tous les temps, je le rappelle.
C'est de l'EMS.
À la projection où je suis allé, il y avait John Lando, le producteur du film.
Ouais.
Et Robert Rodriguez, le réalisateur du film.
Roro. Pour les fans de Une nuit en enfer et The Faculty.
Est-ce que Robert Rodriguez expliquait, c'est que lui, ce qui a penché aussi en sa faveur pour réaliser le film, c'est qu'il a décidé déjà de faire le film de James Cameron et pas un film de Robert Rodriguez, et qu'il est parti comme base du premier jet de scénario de James Cameron.
D'accord.
Qui faisait plus de 600 pages avec les annotations.
Ah bah putain, déjà si Roro a pris le temps de lire,
en audiovisuel,
dire, c'est pas mal.
On dit souvent que c'est une page égale une minute.
Donc on a déjà 600 minutes, très bien.
Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de combien de temps va durer ce film.
Non mais il y en aura peut-être plusieurs du coup.
Bah alors, plusieurs choses.
Ouais.
De ce que j'ai cru comprendre en voyant des scènes dans le désordre, c'est que le film a l'air très long.
Ouais. Bah, tous les films de Cameron sont longs, hein. c'est comme ça.
Oui. Mais c'est une impression que j'ai. Ça couvre 3 tomes plus le Motorball.
Ok.
Voilà.
Ouais, il fallait qu'ils mettent le Motorball.
Et John Lando, le producteur du film, a dit: on a laissé les studios de tournage exactement en l'état. On n'a rien démonté.
Ok. Genre, on revient.
Et il y a moyen. En fait, non, c'est pas on revient, ça dépendra du succès du film.
Ouais, bien sûr.
Dans le monde entier. Aux États-Unis d'une part et puis dans le monde entier.
En vrai, c'est de la. Et ça me fait plaisir, hein, mais c'est de la garantie que ça fonctionne.
Je sais pas.
C'est garanti parce que tu as déjà les retours presse, ils sont ouf. Vraiment, ceux qui ont assisté à la même projection que toi, tous les retours sont extrêmement bons. Et c'est un film de Cameron.
Bah,
film de Cameron n'a pas fonctionné?
C'est ça, Cameron, c'est un.
Le mec.
C'est un magicien, quoi. Le mec qui fait que des cartons.
Son film précédent, Avatar. Son film d'avant, Titanic. Tu vois, avant, Terminator.
Non, mais je suis en train de revoir tout Dark Angel, la seule série qu'il a produite. Évidemment que j'aime Cameron. Mais je sais pas, je.
Mais t'as peur, c'est normal. Nous aussi, on a peur.
En fait, j'ai peur aussi de. Un petit peu de l'histoire du film. Je sais pas où ça va. Mais après, j'ai vu des scènes dans le désordre.
Après, moi, j'ai vraiment pris le parti de me dire ça sera pas une adaptation du manga Gun. Ce que je vais voir, c'est le nouveau film de Cameron et Rodriguez, tu vois.
Inspiré de Gun.
Inspiré de Gun. Mais je sais que de toute façon, je serais déçu. Si j'attends une vraie adaptation de Gun, je serais déçu. Donc, j'y vais vraiment pour. C'est un film.
Un peu comme ce qu'était Tintin pour Spielberg. T'allais voir, c'est comme si t'allais voir un nouveau Indiana Jones, sauf que c'était Tintin, mais c'était un film de Spielberg. C'était vachement bien.
Enfin,
c'était super, quoi.
Et c'est marrant ce que John Lando aussi racontait le moment où ils ont invité Yukito Kishiro à venir sur le plateau pour voir le tournage et tout. Et sa première réaction, ça a été de sourire bêtement, genre. Ma création est là, elle existe.
Tu m'étonnes, ça doit être tellement fou. Ça doit être tellement fou.
Enfin voilà, en tout cas ça c'est pour Gun. On fera une émission dès qu'on l'aura vu, vous inquiétez pas. Il y a des adaptations animées aussi qui vont arriver et faire grand bruit cette année et faire de Promised Neverland là, une des stars encore de cette année, puisque depuis le début du mois de janvier, Promised Neverland l'animé est dispo en France et il s'est retrouvé en trending topic sur Twitter.
Tu l'as vu l'anime?
Moi j'ai vu l'épisode 1.
Et alors?
Surpris, j'ai trouvé ça un peu moins beau que le manga. Mais tout le monde n'aime pas le graphisme du manga. Donc
ouais, c'est là un manga qui tranche un peu sur
le
graphisme.
C'est ça. Moi, je suis très fan du graphisme du manga. Je suis un petit peu moins fan de l'adaptation animée qu'ils en ont fait.
D'accord, c'est quoi? C'est plus épuré,
plus classique, ouais. Plus normal. Mmh. C'est un peu plus normal.
Animé, plus lisse, quoi.
Je suis aussi un petit peu surpris de quelques facilités scénaristiques. Non, c'est pas ça. Comment dire? Mais sur un épisode, encore une fois, c'est un jugement qui peut changer très vite. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus par la main le spectateur.
Ouais. Ah oui, on l'a.
Radiante, ouais.
Oui, c'est ça.
C'est ce que vous aviez dit, Radiante.
Te prend plus par la main pour t'expliquer parce que c'est un anime. Quoi.
Ouais,
c'est-à-dire que la première scène de l'animé, c'est les trois gamins petits à 5-6 ans qui sont devant cette grille en disant: mais à quoi sert cette grille? Bah, je pense qu'elle nous protège de quelque chose.
Tintin.
Générique. Voilà. C'est pour ça je suis un petit peu plus perplexe sur l'animé. La première saison va faire 12 épisodes. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai.
Super. Bah, par contre, ça c'est bien. La première saison, tu sais ce qu'elle va couvrir ?
Bah non, 12 épisodes, ça va pas les faire.
12 épisodes, c'est
un
court,
épisode, ça fait c'est le chapitre 1.
Ouais, d'accord, donc ouais, c'est court.
Je sais pas du tout où ça va aller, je sais même pas s'ils vont aller jusqu'à réécouter notre émission sur Mike Neverland pour avoir plus d'infos là-dessus. Autre animé, on va finir un petit peu. Cette année arrive l'animé Rising of the Shield Heroes. Il y a aussi l'animé Les Rôdeurs de la Nuit. Voilà, c'est deux grosses séries.
Mais ça, c'est ton chouchou, ouais. Les Rôdeurs de la Nuit.
Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en animé.
C'est ton chouchou. Ouais,
Rising tellement
aussi,
déçu.
Je suis curieux de voir comment ça va avancer. Le début de l'animé est très normal, très ouais, proche très du manga, mais j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller.
Mais j'aime bien Rising, j'aime bien, et pourtant j'aime pas la Isekai spécialement, mais Rising, il y a vraiment un côté badass que j'aime bien, un peu différent.
Qui sera la star du manga en 2019? Bon, on n'a pas eu vraiment la vraie réponse à cette question, cette émission, mais en tout cas on a donné des indices.
Ouais, on peut mettre une petite pièce après.
Bah moi je mets une petite pièce sur My Hero Academia, mais c'est déjà sorti.
Oui, mais moi je mets une petite pièce sur Haku, le manga préhistorique.
Ah oui.
Ah, il y a moyen que ça cartonne bien.
En tout cas, vous m'avez bien, moi je l'ai pas lu, ça m'a bien chauffé.
Il y a moyen que ça cartonne bien.
Le tome 1 est pas ouf, ouais, mais tu sens qu'il y a un énorme potentiel, on va dire, là-dedans.
Mais petit potentiel aussi sur Jagan.
Ouais, mais c'est trop dur, j'ai lu un chapitre, c'est trop compliqué.
Bah, moi je mets une petite pièce aussi sur Jagan, mais ouais, non, je suis totalement dans l'inconnu sur qui va se vendre par palette de 28 et qui va se vendre par petit carton.
Bah c'est le début de notre boom de début d'année, tu vois.
C'est ça, c'est, voilà. On se regarde.
Pour le moment, se regarde.
Toi t'attends le Backstreet Boys, moi j'attends le Black Eyed Peas.
Voilà, moi j'ai pas dit les Backstreet Boys. Hein.
Non, t'as dit qui ?
J'ai dit les Black Street.
Les Black Street, pardon.
Backstreet Boys, tu me mets sur autre chose là. Tu me mets sur le slow de fin de soirée.
Toi, t'attends les NSYNC et c'est tout.
Ah, un petit NSYNC, pourquoi pas.
Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes de retour très bientôt. N'hésitez pas à écouter l'émission sur le Top Manga 2018, puisque celle-ci va un petit peu de pair avec. Ouais.
Voilà, et n'hésitez pas à nous indiquer vos top 10 2018, parce c'est qu'on n'en a toujours aucun.
Et surtout, qui sera votre star du manga en 2019.
Votre chouchou.
Hashtag 5DC, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Ciao.
Ciao. Salut, ciao.